Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio HDR pour votre émission Ça vous concerne, émission un peu particulière, émission collaborative un peu aujourd'hui sur les migrants donc, avec en première partie d'émission une interview réalisée par notre amie Marie, donc interview de Emmanuel Ruano de SOS Méditerranée, également Xavier de Amnesty International qui était là et qui s'invite dans la conversation de façon très intéressante pour parler de l'Aquarius et de l'Armada. On trouvera ensuite un reportage réalisé par nos collègues Plamedi et Edali auprès du réseau Solidarité Migrants qui s'occupe donc d'accueillir des migrants mineurs. Et en attendant tout ça, on va se mettre en chauffe avec un peu de musique pour cette dernière, un petit best-of des meilleures musiques de cette année de l'émission et puis d'autres petites musiques parce qu'on aime bien. Voilà, on va attaquer donc avec un peu la musique emblématique de cette émission, Jeezy avec I Mean It.
You know, if I say something, I mean it. These things happen. Yeah.
If I ever said I'm never scared.
Said that shit, then I mean it. She calls me, I screen it. I'm only fucking if it's convenient. You lie on pussy, that's weak shit. We pass pussy round, that's G shit. But you ain't fam, so what is this we shit? You cuff yours and Elise shit. Listen, I'm telling you, it's my world. I does what I wish to. If you're mad, well, too bad. Sounds like a personal issue. I walk in, they all stare like, who the fuck is this dude? Kick's game is just rude. Don't get jujitsu'd. Tunnel visions, I get ahead. Stay solid, I never fled. My haters feel like I'm better dead. But I'm quite alive, getting bread instead. With a better girl, with a better face. I'm in a better place. Getting better head.
I just wanna stay broke forever. Yeah, that's that shit no one ever said.
Never scared. Just know I mean it. If I ever said I fuck your bitch, just know I mean it. And if I ever said I'm getting money, just know I mean it.
Signed Gerald, I'm sincere. This year I'm in here, I'll spell it out to make things clear. And meanwhile your end's near, I've got a lane and I'm in gear. You people wonder who's next up, that conversation really ends here. You rappers just talk a bunch, stress me out, I chop a Dutch. Weak rappers tryna bite the sound, but my style is a lot to munch. And I'm more like whiskey neat, and you're more like vodka punch. G's dope, you might blow up, think I know, I've got a hunch. On my side it's authentic, you try to stump but it's all rented. But you're dope, you got a bad chick, yeah cool bro. We all get it. She wears a ring, came through without it. You really think she stays true? I doubt it. Cause I'm fucking your girlfriend and there's nothing
if
you
I
can
ever
do
said
about
I'm
it.
I'm never scared. Just know I mean it. If I ever said I fuck your bitch, just know I mean it. And if I ever said I'm getting money, just know.
Nous sommes en direct de l'Armada et aujourd'hui nous sommes avec Emmanuel et Xavier, donc bonjour.
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 Moi, je suis volontaire chez SOS Méditerranée depuis un peu plus de 6 mois. Et donc, je suis venue à l'Armada parce que donc, les États généraux des migrations ont prévu différentes actions pendant le temps de l'Armada. Et donc, je suis venue voir un petit peu comment ça se passait. Et puis, aussi pour les remercier de parler de nous, de parler de l'Aquarius et de ce qui se passe en Méditerranée.
Oui, moi donc je suis représentant un peu des EGM, personnellement aussi d'Amnesty International. On a été 27 associations signataires en fait d'une demande de faire venir l'Aquarius ici, tout en sachant pertinemment effectivement que l'Aquarius n'était plus en activité. On aurait aimé qu'il soit là pour la valeur symbolique que ça représentait. On est entouré de bateaux de guerre et de bateaux de plaisance et ultra luxueux, et on aurait aimé qu'il y ait un bateau qui représente un peu la cause humanitaire. Donc quoi de mieux que l'Aquarius pour parler de ça.
Et du coup, SOS Méditerranée, qu'est-ce que c'est ?
Alors, SOS Méditerranée, c'est une association civile européenne de sauvetage en mer. Donc aujourd'hui, on n'a plus de navires de sauvetage, mais d'habitude, en fait, on était situé dans les eaux internationales proches de la Libye, donc entre la Libye et l'Italie. Et on faisait du sauvetage de personnes en détresse en Méditerranée centrale. Il faut savoir aussi qu'on a trois missions, donc le sauvetage, la protection, donc ça c'est à bord avec notre partenaire médical Médecins Sans Frontières. Et notre troisième mission, c'est le témoignage et la sensibilisation. Donc ça se passe surtout à terre, où on est présent dans 15 antennes, justement, on fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles, et après on est présent dans plein d'événements. On fait des conférences, des débats, des projections, etc. Et on est 450 bénévoles aujourd'hui en France à sensibiliser un peu partout en France.
Bravo.
Et du coup, l'Aquarius, parce que je pense que c'est un nom qui rappelle quelque chose à tout le monde, mais est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler ce que c'était, son histoire, comment ça s'est passé, l'impact médiatique aussi que ça a eu ?
Alors l'Aquarius, donc c'est un navire de 77 mètres qu'on a commencé à fréter. Donc SOS Méditerranée s'est créé en 2015, mais on a frété l'Aquarius en février 2016. Et il est parti en mission en février 2016. Il a fait son premier sauvetage en mars 2016. Et donc c'était un grand navire qui était assez idéal pour les sauvetages. À bord, il y avait trois équipages, donc les secouristes marins sauveteurs de SOS Méditerranée, on était une dizaine. Il y avait l'équipage médical de Médecins Sans Frontières, une dizaine aussi, et donc les marins qui faisaient fonctionner le bateau. Donc en tout, ça faisait une trentaine de personnes, et à bord, il y avait aussi donc des photographes et des journalistes. On a énormément entendu parler de l'Aquarius au moment de l'épisode de Valence, donc en juin 2018, donc ça fait un an, enfin on a commémoré un petit peu les un an de la fermeture des ports européens, des ports italiens, pardon. Et voilà, donc il y a eu un gros impact médiatique à ce moment-là, parce que c'était un petit peu la première fois qu'on nous fermait les ports, et qu'on a dû donc faire route vers Valence avec plus de 800 personnes à bord, voilà.
Et du coup, maintenant, SOS Méditerranée, c'est quoi ? Est-ce que vous n'êtes pas arrêté à l'Aquarius, j'imagine ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis aussi ?
Alors, depuis la fin de la... Donc, on a arrêté l'affrètement de l'Aquarius en décembre 2018. Donc, comme je vous le disais, on fait énormément de sensibilisation à terre. Et après, voilà, l'Aquarius, c'était un outil de travail. Aujourd'hui, on cherche un nouvel outil. Ça prend plus de temps que ce qu'on imaginait, parce qu'en fait, il y a énormément de contraintes et peu d'offres sur le marché. Donc, aujourd'hui, on cherche un bateau qui puisse naviguer en mer tout le temps, qui puisse avoir une capacité d'accueil assez importante, aussi bien pour les rescapés que pour les personnes à bord. On cherche un bateau qui n'est pas trop cher, un bateau qui a un pavillon solide. Par solide, j'entends qu'il ne va pas être influencé par les Italiens comme ça a été le cas avec nos anciens pavillons, et avec un armateur qui est d'accord avec ce qu'on fait, en tout cas pas en désaccord. Voilà.
Et du coup, comment vous soutenir ? Est-ce que c'est pour directement trouver un bâtiment, si on peut dire ? Est-ce qu'on peut reverser des fonds ? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir, votre cause ?
Eh bien, très bonne question. Alors nous, il faut savoir qu'on n'est pas du tout présent à Rouen. On a donc, c'est ce que je disais, on a 15 antennes bénévoles. La plus proche, c'est soit Paris, soit Caen. Donc après, si nous contacter à l'adresse contact@sosmediterranee.org, déjà juste recevoir des messages de soutien, ça fait énormément plaisir, surtout en ce moment où le climat est assez hostile. C'est nous faire des dons ponctuels ou réguliers sur le site. Ça, on en a toujours besoin, sachant qu'on est quasiment sûr que le prochain navire coûtera plus cher, parce que l'Aquarius, il faut savoir que c'était un navire ancien qui était très bien entretenu, mais voilà, il n'y en a pas énormément sur le marché, des navires comme ça. Et c'est aussi organiser des événements de soutien, nous inviter à intervenir dans les écoles, à des événements, parler de nous. C'est hyper important en fait aujourd'hui de parler de ce qui se passe en Méditerranée centrale, et c'est pour ça que c'est super qu'il y ait eu des actions organisées par les États généraux à l'Armada, parce qu'on est tous des amoureux de la mer ici, et la mer, c'est pas juste la plage, les beaux bateaux, c'est aussi ce qui se passe, le drame en Méditerranée centrale.
Et du coup, justement, dans l'Armada, vous avez pu voir quoi en rapport justement avec la Méditerranée et tout ce qui se passe là-bas ?
Qu'est-ce qu'on a pu voir ?
Pas grand-chose. Il y a une exposition, effectivement, au foyer des marins, très intéressante. Je parle un peu. Effectivement, venez la voir, il y a des très belles photos, beaucoup de sensibilisation là-dessus aussi sur le sauvetage en mer, mais sinon effectivement pas grand-chose. C'est pour ça qu'on a essayé de bouger pour faire quelques opérations, notamment on a pu nous voir là ce matin devant le Kind Arena. avec des lettres et des tracts, des lettres où il y avait marqué où est l'Aquarius, un t-shirt d'ailleurs qu'on arbore un petit peu là. Et donc on essaie de faire la communication, mais de la part de la région, il n'y en a pas, effectivement pas beaucoup.
Il faut savoir que toutes les actions qui sont menées ici à l'Armada, tout a été organisé et fait par les États généraux d'immigration. Nous, moi je suis venue un petit peu en spectatrice voir ce qui se passait et puis remercier les États généraux de sensibiliser et de faire connaître ce qui se passe en Méditerranée.
Est-ce que justement pour une prochaine Armada ou même simplement une autre manifestation maritime, vous prévoyez de vous y installer, avoir un stand, là où il y a les villages associatifs par exemple ?
Alors, moi, j'espère que la prochaine Armada, en fait, SOS Méditerranée n'existera plus. Ça voudra dire qu'on a réglé le problème, donc je le souhaite de tout cœur. Après, en fait, il faut savoir qu'on essaie d'être de plus en plus présent sur les événements maritimes en Bretagne. Comme je vous le disais, on n'est pas très présent en Normandie, donc c'est un petit peu compliqué à chaque fois de se déplacer. Mais on est présent sur les événements maritimes en Bretagne et pourquoi pas élargir à la Normandie.
Est-ce que vous auriez un dernier mot à ajouter avant que le cortège de cornemuses arrive et finissent cet audio?
Je dirais aux gens que c'est très important de soutenir et d'informer de ce qui se passe en Méditerranée. Je pense que chaque vie compte et que c'est très important qu'on se batte pour ça, pour les droits de l'homme, pour le droit à la vie, le droit à la dignité.
Oui, moi si je veux ajouter quelque chose, c'est que proprement dit, la question de l'accueil des migrants, c'est presque une autre question, presque annexe, qui découle de la première. La vraie question, c'est de sauver des gens qui sont en train de se noyer. En fait, c'est ça, juste ça. Dans l'indifférence générale en ce moment. Donc heureusement qu'il y a des ONG qui s'occupent de ça. Et merci notamment à SOS Méditerranée. On se quitte en musique.
Nous, en fait, vraiment, on ne se positionne pas sur l'accueil. En fait, on a de la chance d'avoir des soutiens un peu de tout parti politique et de tous horizons. C'est justement parce qu'on se positionne que sur le sauvetage en mer. On ne laisse pas quelqu'un mourir en Méditerranée. On ne laisse pas quelqu'un mourir en mer et on ne se pose pas la question de l'après, de l'accueil. En fait, il y a des autorités, il y a des associations beaucoup plus compétentes que nous. Nous, c'est vraiment juste le sauvetage en mer. On est une association, on vit dans l'urgence, on est un peu l'ambulance de la Méditerranée. Après, voilà, on ne se pose pas du tout la question de l'accueil. On n'est pas compétent pour répondre à ces questions-là.
Vous, en tant que bénévole, quel est votre travail? Est-ce que aussi vous allez en mer ou est-ce que c'est plus dans la communication et dans la présence que vous travaillez?
Alors moi, je travaille du coup chez SOS Méditerranée. Alors moi, j'aide au développement des diverses antennes du sud de la France. Donc on crée des événements, on sensibilise beaucoup dans les écoles, etc. Et en fait, les bénévoles dans toute la France, ils font vraiment plein de choses très différentes. Donc ça peut être justement aller faire de la sensibilisation, être sur des stands pour sensibiliser, collecter, ça peut être venir faire des photos à un événement, ça peut être faire de la traduction, ça peut être... En fait c'est plein de choses, c'est des gens engagés qui ont envie de faire quelque chose pour nous aider et qui mettent leurs compétences à disposition. Et ça peut être juste ça peut être 3 fois par semaine comme ça peut être 1 fois tous les 6 mois. On a vraiment de tout, de tous les âges, et ça c'est super.
Une interview très musicale, donc réalisée à l'Armada, voilà ce qui explique la cornemuse. On vous prie de bien vouloir nous excuser pour cette ambiance qu'il y avait sur Rouen ces derniers temps. Et puisqu'on parle de musique, écoutons-en, hein, pas de la cornemuse, mais Living Colors avec Cult of Personality.
And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. The cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. Like Mussolini and Kennedy. I'm the cult of personality. The cult of personality. The cult of personality.
Smiling face on your TV. Oh, I'm the cult of
Bonjour, vous voulez bien vous présenter ?
Oui, bonjour, je m'appelle Catherine, je suis donc dans le réseau Solidarité Migrants depuis un an et demi. Voilà, je participe en tant qu'animatrice de ce qu'on appelle des réunions d'échange entre hébergeants, puisque le réseau Solidarité Migrants est là pour épauler, aider et héberger des gens qui arrivent, mais aussi, surtout, nous sommes plus spécialisés, hélas, par rapport aux jeunes mineurs.
Bon, est-ce que vous voulez bien nous présenter le réseau de solidarité migrants dans les grandes lignes, du coup ?
Alors, dans les grandes lignes, au départ, c'était un réseau pour accueillir tous ces gens qui arrivaient à Rouen. Il se trouve qu'au milieu des familles, des gens qui arrivaient, se trouvaient beaucoup de mineurs. De mineurs qui auraient dû être pris en charge par le département, puisqu'ils étaient mineurs, et qui ne l'étaient pas, et qui donc dormaient à la rue. Et voilà, donc c'était l'urgence dans un premier temps, c'est toujours l'urgence par rapport à tous ces jeunes qui arrivent et qui devraient être mis à l'abri, soignés. Donc là, il y a des temps de latence assez longs entre le moment où ils sont déclarés, reçus dans un centre de consultation qui peut leur décerner le titre de mineur. Donc ça reste des temps très longs, temps pendant lesquels ils sont à la rue.
Vous employez le verbe devoir, vous dites qu'il aurait dû être pris en charge par le département. Vous voulez dire que légalement le département est censé prendre en charge tous ces nouveaux arrivants et qu'il ne le fait pas.
Voilà, le département doit recevoir tous les jeunes mineurs. Ça fait partie de la charte des mineurs. Donc en général, la minorité des jeunes est contestée par l'ASE, par l'aide sociale à l'enfance, et donc il y a des recours. Donc les gens de RSM aident les jeunes à faire les recours, c'est-à-dire aller voir les avocats, aller voir les juges, interpeller pour que leur minorité soit reconnue parce que même parfois ils ont des papiers hein, de leur pays. Souvent, bon, il y a beaucoup de pays d'Afrique, mais beaucoup de Guinée-Conakry. Et les papiers sont considérés soit comme faux, soit comme non valables. Et donc, les minorités sont contestées.
Là, on parle beaucoup donc, d'être reconnu mineur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans les faits, ont moins de 18 ans et l'État conteste les papiers qui disent qu'ils ont moins de 18 ans afin de se décharger, enfin l'État, le département en l'occurrence, afin de se décharger une responsabilité, c'est ça ?
Oui, oui, c'est cela. C'est cela.
C'est du cynisme ou c'est de la bonne foi ?
Écoutez, c'est une lourdeur administrative. Je pense qu'il y a au niveau politique des directives qui font qu'il faut décourager les jeunes à venir. Et donc, tout est mis en place pour qu'il y ait le moins de jeunes possible à héberger. Il y a effectivement au niveau de l'ASE, et ça on le sait aussi, hein, un manque de moyens déjà pour les enfants, les jeunes français. Hein, des manques de moyens comme partout. Vous connaissez les problèmes à l'hôpital, partout. Il y a des manques de moyens, manque de personnel. Et là, il y a un petit afflux, mais qui est vraiment minime. Hein, c'est pas un raz-de-marée de jeunes, mais des jeunes qui arrivent et qui devraient être mis à l'abri. Or, quand ils ne sont pas reconnus mineurs, ils ne sont pas mis à l'abri. Et lorsqu'ils sont enfin reconnus mineurs, on les met à l'hôtel. L'ASE les met dans des hôtels d'un Rouen ou à la périphérie. Et ce n'est pas toujours adapté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi éducatif, il n'y a pas de soins. Il y en a qui ont besoin d'être soignés et il n'y a pas de soins médicaux. Donc le réseau Solidarité Migrants pallie à tout ça. Voilà. Donc, y compris en recueillant des jeunes chez eux, alors que normalement, c'est au département de le faire.
Vous ça fait combien de temps que vous faites partie du réseau Solidarité Migrants déjà ?
Ça fait un an et demi à peu près.
Ouais. Oui, donc un an et demi, c'est peut-être pas assez longtemps pour la question que je vais vous poser, mais est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de crise migratoire ces derniers temps, est-ce que vous sentez qu'il y a plus de migrants qui sont dans le besoin ces temps-ci, ou est-ce que c'est une impression médiatique, entre guillemets ?
Je pense que c'est une impression médiatique, c'est pas du tout un raz-de-marée, c'est un flux assez régulier. La plupart des jeunes, et on a eu des informations sur ce qui se passe en Guinée, c'est un pays où les jeunes ne peuvent pas rester pour plein de raisons, hein, même s'il n'est pas en guerre. Il y a une extrême pauvreté, une instabilité politique terrible et aucun avenir pour les jeunes. Et donc il y a beaucoup de jeunes effectivement qui arrivent de Guinée, mais il y a aussi des jeunes qui arrivent du Mali, du Nigeria. Il y a beaucoup de garçons, comme vous avez pu le voir là tout de suite. Très peu de filles, mais la plupart des filles qui arrivent sont mises à l'abri beaucoup plus vite quand même, hein, parce qu'il y a plus de danger.
Oui, donc le département les met à l'abri plus vite que
non,
les garçons.
Pas forcément, le département. Tous les gens qui gravitent autour sont beaucoup plus sensibles quand même, parce que la plupart ont vécu des traversées quand même extrêmement difficiles.
Vous devez entendre des histoires pas toujours très drôles, j'imagine.
C'est très émouvant et très, très difficile. Pour ceux qui arrivent à en parler, beaucoup n'arrivent toujours pas à en parler. Voilà.
Et globalement, je sais que c'est une question un petit peu, un petit peu complexe. On n'a malheureusement pas le temps de trop s'élancer dans le sujet. Mais est-ce que vous êtes plutôt optimiste ? Est-ce que pour vous, le réseau Solidarité Migrants réussit à servir de rustine, entre guillemets, sur des pneus qui sont abandonnés par le département ? Ou est-ce que vous trouvez que ça ne peut pas suffire et que vous êtes démunis ?
Alors, effectivement, on est assez limité, mais il faut savoir qu'il y a plus 120 ou 100, plus 100 familles qui accueillent des jeunes, que ça n'est pas suffisant, mais que c'est déjà très important et que ça tisse des liens entre les hébergeants, entre les jeunes, et qu'il y a des relais qui se font. Et c'est tout ce qui se fait, même si c'est minime. Vous connaissez la fable du colibri, hein, c'est là chacun met sa petite touche à l'édifice. Donc effectivement, on peut pas tout gérer, mais les jeunes qui sont accueillis et les familles qui les accueillent, etc., c'est d'une grande richesse aussi pour tout le monde. Voilà. Alors dire qu'on a tout épongé et qu'on résout tout, non. Chacun fait sa part. Donc il y en a qui hébergent beaucoup de jeunes, il y en a qui n'hébergent. Moi, je n'héberge pas, par exemple, mais je participe aux réflexions autour de l'hébergement avec les hébergeants. Voilà. Et je viens en permanence du jeudi, comme vous avez vu ici, où les jeunes se retrouvent, peuvent parler entre eux. Et on fait des activités style jeu pour à la fois se connaître. Et puis communiquer. Bon, certains ne parlent pas bien français, donc il y a aussi problème de la langue.
Justement, vous nous parlez des permanences du jeudi. On entend très certainement qu'il se passe des choses à côté. En quoi ça consiste, ces permanences du jeudi ?
Alors, c'est principalement centré sur les recherches de stage, d'emploi. Comment se débrouiller, mais c'était aussi, au début, montrer des plans de Rouen pour que les jeunes puissent se débrouiller tout seuls, se déplacer, aller d'un endroit à un autre. Il y a aussi des cours qui sont dispensés à la fac par des bénévoles, profs et étudiants qui donnent des cours de français quasiment tous les jours à la fac. Donc la plupart des jeunes y vont, enfin quasiment tous. Et donc ici, c'est centré sur le professionnel et aussi sur ce que je vous disais, l'atelier expression. Donc on fait des jeux et aussi des moments qui... du jeu arrive à des relations, des liens entre les jeunes, c'est-à-dire qu'on peut parler par exemple avec eux des proverbes que nous on connaît, donc ils peuvent parler des proverbes qu'ils connaissent en Afrique, et puis de fil en aiguille, eh bien, des choses plus personnelles qui peuvent surgir et qui font qu'il y a une communication, une confiance et un échange quoi, avec les jeunes. Et les bénévoles.
Parce qu'en fait, du coup, d'un point de vue purement légal, tant qu'ils sont mineurs, la France est tenue de les accueillir, c'est bien ça ?
Oui.
Et à partir du moment où ils sont majeurs, qu'est-ce qui se passe ?
Ah ben, quand ils sont majeurs, après, soit ils sont dans un processus de stage et un processus professionnel, auquel cas ils restent en France, puisqu'il y a quelque chose d'engagé. C'est pour ça que c'est important, même quand ils sont mineurs, qu'ils soient reconnus, qu'ils puissent commencer une formation professionnelle. Et donc, si tout ça ne s'est pas fait et qu'ils rejoignent la cohorte des sans-papiers, hélas, voilà, après, c'est de la débrouille, etc., pour arriver à trouver... des papiers, des titres de séjour, des formations, etc. Donc, les sans-papiers, je ne connais pas trop le sujet. Hein.
Chers collègues, vous avez des questions ?
Non, c'était très clair.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter ?
Non, ben là, on entend le bruit. Je pense que souvent, on débarque avec les chaises musicales. Et puis, comme il y a une bénévole qui a fait beaucoup de théâtre, qui donc amène un peu ses techniques de théâtre, pour s'échauffer, voilà, s'échauffer, se connaître, etc. Et ça permet pas mal d'échanges.
Oui, en fait, ça permet ce type de jeu déjà de créer des liens et aussi peut-être de, par la communication, de développer le français aussi.
Ah ben bien sûr, développer le français, c'est primordial parce que ce qu'on explique aux jeunes, c'est que la porte d'entrée pour pouvoir trouver un boulot, un stage, c'est savoir parler français. Voilà, savoir s'exprimer, se présenter, savoir faire un CV, donc là ça fait partie dans un deuxième temps, un CV, etc., pour pouvoir...
Votre association, elle a du soutien, elle a des subventions, elle est en partenariat avec d'autres structures ?
Pas de subvention, on travaille en lien avec Médecins du Monde, avec Welcome, dont d'autres associations qui reçoivent des migrants. Ou... Voilà, non, il n'y a pas de subvention, bien entendu, donc on vit uniquement sur les dons, les cotisations et les activités... Par exemple, nous avons organisé un goûter solidaire ce week-end et on a récolté de l'argent, etc.
Voilà donc pour cette interview de Catherine du réseau Solidarité Migrant. On fait une pause musicale avec The Brother Four et The Green Leaves of Summer avant de se retrouver l'interview des trois nouveaux venus, hein, trois migrants qu'on a pu rencontrer et interviewer pour vous.
A time to be sowing the green leaves of summer are calling me home. 'Twas so good to be young then in the season of plenty when the catfish were jumping as high as the sky. A time just for planting, a time just for plowing, a time to be courting a girl of your own. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth and to stand by your wife at the moment of
be reaping, a time to be sowing, a time just for living, a place for to die. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me home. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me home. Ooh. Ooh.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Comment tu t'appelles?
Je me nomme Ouedraogo Yakuba.
Tu viens d'où?
Je viens de Burkina Faso.
Burkina Faso, ah. Non. Quelle ville?
Je viens de Bobo Dioulasso.
Pourquoi vous êtes venu ici? Cette association-là?
J'ai été à l'RSM. Il y a une association qu'on appelle l'RSM, Diable Corps. C'est là-bas, ils m'ont dit, bon, je peux venir ici à centre social parce que j'aimerais faire des métiers que le centre social peut m'aider